Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série « Le vainqueur ». Les deux thèmes que nous avons aujourd'hui, c'est primo, les bénédictions éternelles et infinies. Secondo, la véritable grandeur. Voyez-vous, le cœur et l'imagination de l'apôtre Paul étaient remplis carrément des bénédictions éternelles et infinies qui étaient l'héritage de la race humaine en Jésus-Christ. Pour le péché de l'homme, il y avait un pardon divin. Pour la faiblesse humaine dans ses tentatives déçues à s'émanciper de la tyrannie des passions et des habitudes mauvaises, il y avait une rédemption divine. Pour l'incertitude et le doute humain en présence des grands problèmes de la vie et de la mort, il y avait l'éclairage de l'Esprit Saint et un libre accès à Dieu. Donc, pour un mécontentement agité aux limites de la vertu humaine, eh bien, il y avait la possibilité d'une droiture transcendante par l'union avec la vie du Fils éternel de Dieu. L'apôtre Paul croyait aux richesses incompréhensibles de Christ. Nous ne retrouverons jamais son enthousiasme tant que nous nous arrêtons principalement sur les bénéfices externes et d'importance secondaire qui suivent l'acceptation de l'évangile chrétien. Transformer les chefs d'État en hommes d'État cultivés, laisser leur peuple être formé pour discuter de la philosophie de Platon, laissez-les devenir célèbres pour leur brillante découverte dans le domaine de la science, et laissez-les aussi créer une littérature avec une grâce, une beauté et une dignité originale, et tout cela sera comme rien, mais comme absolument rien, comparé à ce que vous avez fait pour eux, à les ramener, chers amis, vers Dieu. C'est ça l'important. Et en les assurant de la tendresse et de la force de l'amour du Père qu'ils avaient oublié, et en leur ouvrant les fontaines de la vie éternelle et de la justice éternelle, en les faisant héritiers d'une gloire éternelle. Cela fut donc la foi de saint Paul, et cette foi était, on peut dire que cette foi-là, croyez-moi, elle était en partie carrément la source de son énergie invisible et invincible surtout, et de son enthousiasme absolument passionné. Car c'était, voyez-vous, un homme passionné. Or, le roi victorieux Jésus-Christ dit exactement ceci dans Apocalypse chapitre 1, verset 18. « Je suis le premier et le dernier et le vivant. Je tiens les clés, etc. » Et si nous nous tournons vers la révélation du Seigneur Jésus-Christ, élevé en tant que conquérant, et étayons à nouveau la base personnelle de la victoire, alors dans la puissance du Christ vivant sur le trône, nous pouvons nous tenir debout face à toutes, on peut dire à toutes les armées des ténèbres. Ce n'est pas peu de choses. Et vous ne devez jamais perdre de vue le vainqueur, le Messie. Ne vous permettez pas de regarder à l'ennemi au point de voiler votre connaissance claire, tout à fait clair de la personne du vainqueur. Gloire à Dieu. Car il est dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 17 et 18, que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur et vous remplit carrément de lumière. Et ceci pour que vous sachiez quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance et se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, vous pouvez me croire, et ceci en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir, ah oui, à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Il a tout mis sous ses pieds, ah oui, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. L'Église qui est son corps, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors ici, nous avons une révélation du Christ ressuscité. Dieu l'a ressuscité des morts et il l'a élevé à travers le niveau de la puissance de l'air vers le lieu situé au-dessus des dominations et des puissances. Il l'a fait asseoir à sa droite avec toutes les choses sous ses pieds et il lui a donné toute autorité sur le ciel et sur la terre. Donc, il est au-dessus de toute loi, de toute autorité, de toute domination et de toute puissance. Il est donc un conquérant absolu et total. Alléluia. Dans le chapitre suivant, l'apôtre passe du dévoilement merveilleux du conquérant que seul le Saint-Esprit peut donner à n'importe quel cœur au domaine terrestre et il décrit la condition de la race humaine ainsi que l'œuvre faite pour les croyants en les unissant au Seigneur ressuscité. Il vous a rendu à la vie. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, et ceci selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il est donc clairement déclaré que chaque âme qui est morte dans les offenses, c'est le péché qui, évidemment, marche selon le prince de l'air, et que ce prince de la puissance de l'air possède chaque âme non régénérée comme l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Si nous prenons la parole de Dieu comme la révélation du point de vue de Dieu, de toutes choses, eh bien, nous sommes obligés de voir chaque âme comme étant sous la domination et la captivité du pouvoir du prince des ténèbres. Aucune modification ne sont données quant à l'éducation et la position. Si vous ne considérez pas ainsi les hommes non sauvés, vous ne serez pas d'une grande utilité envers Dieu pour leur salut et vous ne vous inquiéterez pas non plus, pas beaucoup en tout cas pour eux. Ou vous pouvez même faire le travail du prince de l'air en christianisant, je dis bien, tellement l'extérieur de ces âmes qu'elles ne connaîtront pas la vérité à propos de leur situation réelle. L'apôtre Paul descend des sommets de la vision glorieuse du vainqueur au calvaire vers ce portrait rapide du domaine des hommes, et puis il monte à nouveau en disant dans Éphésiens chapitre 2 versets 5 et 6 « Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie avec Christ, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Pouvez-vous avoir une image plus complète que celle-ci du péché, de Satan et de Christ, ainsi que notre position envers chacun? Premièrement, le Saint-Esprit a rendu à la vie le Christ mort en l'élevant et en l'amenant à la droite de Dieu. Il l'a fait asseoir là, au-dessus de toute chose. Ensuite, en descendant vers la pauvre âme morte dans le péché et sous la puissance de Satan, il dit « Parce que Christ est mort pour toi et que tu es morte avec lui, tu es rendu à la vie avec Christ et tu es ressuscité à une nouvelle vie en lui. Il y a donc une nouvelle vie pour toi. Vous êtes mort dans les offenses et dans les péchés. Donc, que pouvez-vous faire? Les gens morts ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, c'est clair. Et pire que ça, vous êtes terriblement vivant d'une autre manière. Il y a un esprit agissant en vous, et cet esprit-là est l'esprit du prince de l'autorité de l'air. Vous n'êtes pas seulement mort envers Dieu, mais hélas, vous êtes actif, et vous êtes occupé à lutter même contre Dieu avec un esprit satanique sans vous rendre compte. Vous ne seriez pas un tel problème si vous étiez seulement mort, mais vous marchez selon le train de ce siècle qui est sous le contrôle, ah oui, sous le contrôle de celui qui dirige le monde, c'est-à-dire du prince de l'air. Vous ne pouvez absolument pas vous sauver vous-même. Mais le Saint-Esprit vient vers vous et il vous dit que Christ est mort pour vous, qu'il a pris votre place sur la croix, et ceci afin que, par sa mort, il puisse détruire, Hébreux 2, 14, la puissance du prince de la mort sur vous. Je répète, afin que par sa mort, il puisse détruire la puissance du prince de la mort sur vous. Je vous en supplie, chers amis, soyez au sacrifice, oui, soyez sûrs, et croyez de tout votre cœur à ce sacrifice expiatoire du Fils de Dieu et à sa mort pour vous. Et ensuite, une autre vie peut se présenter à vous, vous pouvez me croire, car il mettra en vous une nouvelle vie. C'est le don de la vie éternelle. Et par l'action de l'Esprit de Dieu, vous êtes rendu à cette vie-là alors que vous acceptez sa mort pour vous et votre mort en lui. Et tout comme Christ fut ressuscité des morts, et ceci en nouveauté de vie, eh bien vous aussi, unis à lui, vous pourrez vous asseoir avec lui dans son lieu de victoire sur le péché et sur Satan. En effet, non seulement vous êtes rendu à la vie, mais vous êtes ressuscité avec lui dans sa vie de résurrection. et vous êtes pris avec lui vers son lieu d'ascension. Il vous assoit avec lui. Et la place que Dieu vous a donnée est là, bien au-dessus de toute domination et de toute puissance. Vous devez vivre dans l'air pur, et ceci au-dessus des puissances des ténèbres, et non dans les brumes et les ténèbres du train de ce monde. C'est le portrait donné dans le premier et le second chapitre de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, et c'est plus qu'un portrait, car c'est une réalité. L'Esprit de Dieu conduit l'Église vers cette connaissance. Vous dites que ça n'y ressemble pas. L'Église est tellement morte. Oui, d'accord, mais certains enfants de Dieu apprennent cela, et comme le dit Stockmeyer, chaque enfant de Dieu qui par la foi percera le niveau de l'ennemi vers ce lieu situé au-dessus dans la lumière claire, dans la lumière pure, oui, et il va ouvrir un chemin pour que d'autres puisse arriver à la lumière salvatrice de Jésus-Christ. Vous dites que je ne ressens pas, que j'en fais l'expérience. Je ne ressens rien du tout de tout cela. Ah oui, mais cher ami, mais c'est d'abord une position de foi. Et si vous l'appréhendez et l'apprenez, le Saint-Esprit vous apprendra comment demeurer dans votre position jusqu'à ce qu'elle devienne un fait dans votre conscience. Tant d'enfants de Dieu tâtonnent comme des aveugles quand il y a un éclairage pour les yeux du cœur qui transformera pour eux ces choses célestes en réalité, afin qu'ils vivent dans la réalité, la bénédiction, la plénitude et la puissance de la communion avec leur Seigneur élevé. J'ai vu de nombreuses personnes prendre le message de la croix, être crucifiées avec Christ, et vu la puissance de ce message agissant en elles, mais voyez-vous, je me suis demandé pourquoi tant de personnes ne parviennent jamais à la lumière et à la liberté. C'est, voyez-vous, c'est parce qu'elles ne parviennent pas à appréhender leur position dans l'esprit, dans leur esprit, dans l'union avec le Christ céleste. La croix est la base de cette position, c'est le côté négatif de la séparation d'avec la puissance du péché, du monde et du diable, mais nous ne ferons que traverser les heures sombres à la fin de la dispensation, tandis que nous vivons dans la lumière de la gloire de l'union avec le Seigneur élevé. Voyez-vous, Dieu le Saint-Esprit prépare son peuple pour l'enlèvement et comme un grand maître d'œuvre, il agit derrière le rideau, derrière l'échafaudage. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire, mais l'édifice se construit. Et de par le monde entier, la Chine, l'Inde, la Corée et d'autres endroits, Dieu le Saint-Esprit appelle les membres de ce glorieux corps du Christ céleste qui est assis à la droite de Dieu et le corps prend forme rapidement et persévère dans l'esprit à une union de foi avec la tête élevée. Ce que nous devons faire désormais, c'est écarter nos regards des ténèbres qui nous entourent des ténèbres qui s'intensifient sur le monde, et nous devons vivre dans une victoire personnelle vers la limite même de la lumière que Dieu nous a donnée. Voyez-vous, lorsque les yeux de notre cœur seront éclairés, nous ne serons pas trompés par la civilisation superficielle de notre époque, et nous n'irons pas imaginer que le monde va mieux. Non, nous ne serons pas surpris de découvrir également que la chrétienté d'aujourd'hui lapidera. Ah oui, lapidera les vrais serviteurs, tout autant que les juifs dans les temps anciens. Difficile à croire, mais c'est la vérité. La chrétienté contrefaite se tournera toujours tôt ou tard sur le vrai. Mais avec la lumière du Seigneur élevée, vous pouvez supporter les pierres. Les pierres qui sont lancées. Et lorsque Étienne, rappelez-vous, était mourant, il a vu Jésus-Christ se tenant devant lui pour l'accueillir. Gloire à Dieu! Oui, le Seigneur qui était assis s'est levé pour recevoir l'esprit de son témoin fidèle. Cela, il me semble, vaut la peine d'être lapidé pour voir le Seigneur se lever pour vous accueillir. Je dis pas que c'est sympathique, mais par rapport à des choses épouvantables qui peuvent nous arriver, vous arriver pour l'éternité dans un faux endroit, il me semble que ça vaut la peine. Parce que l'endroit erroné, ce n'est pas pour 15 jours, c'est pour l'éternité. Il y a eu donc deux sortes de bénédictions à la Pentecôte. La bénédiction du Saint-Esprit dans le gain des âmes et la bénédiction des pierres. Et oui, il faut bien le dire, en quelque sorte, c'était une bénédiction. Donc, mon cher ami, êtes-vous prêt pour l'une ou l'autre? Vous voulez la bénédiction pour gagner des âmes? Alléluia! Mais laissez le Maître choisir pour vous l'honneur des pierres, des martyrs, même si ce ne sont que celles du ridicule de notre monde moderne. Ne craignez donc pas la persécution et les railleries, l'opposition ou le rejet, c'est le prince de l'air et l'esprit qui agit dans chaque enfant de la rébellion. Par les pierres de la terre, Dieu permet à l'ennemi de conduire ses enfants hors du domaine terrestre pour vivre au ciel. Vous savez que si vous pouvez obtenir un soutien sur terre, vous vous appuierez dessus, ou si Dieu nous dit « Laissez le diable balayer les supports » et avec joie, l'ennemi utilise sa permission. Maintenant que nous avons eu l'aspect glorieux, considérons à nouveau le fondement et voyons si nous sommes enracinés sur le rocher du calvaire. C'est en Romains, chapitre 6, verset 3. Et vous ne pouvez pas avoir un être ressuscité des morts à moins que vous ne soyez amené à l'endroit de la mort. Vous comprenez pleinement que vous ne pouvez pas partager la résurrection de Christ à moins que vous n'ayez eu une part dans la communion de sa mort. Votre fondement et dans sa mort, l'endroit où vous devez être enraciné et planté, afin qu'aucune tempête ne puisse vous en sortir. Les gens disent que le chêne s'enracine dans les tempêtes. Si vous êtes semblable à un chêne, alors Dieu vous donnera de nombreuses tempêtes pour vous enraciner, croyez-moi. Plus la puissance de la vie divine est forte en vous, plus Dieu la mettra à l'épreuve, et tandis qu'il la teste, elle se fortifie aux racines. Et oui, vous ne pouvez jamais connaître Éphésiens chapitre 1 dans une victoire permanente et continue tant que vous ne connaissez pas Romains chapitre 6 comme étant votre position permanente et aussi une position qui est connue. Demandez-vous simplement ce qu'est ou représente Romains chapitre 6. Écoutons un petit peu l'apôtre Paul. Il dit ceci. Êtes-vous ignorant? Oui, nous sommes très ignorants. 90% de l'Église sont ignorants, d'après des statistiques. Ils pensent que Romains chapitre 6 n'est que de la théologie. Ils l'ont relégué aux étagères théologiques. C'est là le travail du prince de l'air, le diable. C'est très bien ce que signifie pour lui le chapitre 6 de l'épître aux Romains. Et il est parvenu à l'entourer de toutes les disputes théologiques possibles afin de cacher à l'Église l'unique moyen de le vaincre. Il est malin et vous n'êtes pas ignorant. Autant de ceux qui furent baptisés en Jésus-Christ, ils furent tous baptisés dans sa mort. Et savez-vous ce que cela signifie? Savez-vous ce que cela signifie pour le Saint-Esprit de vous prendre et de vous placer dans la mort de Christ, non pas en théorie, non pas dans un signe extérieur visible, mais dans la conformité réelle dont saint Paul nous parle au verset 5 de Romains 6. Un érudit en grec me signala un jour à propos de ce cinquième verset que le mot « conformité » dans la dernière proposition ne se trouvait pas dans l'original. D'une manière exacte, il dit « si vous êtes devenus unis à lui » par la conformité de sa mort, vous le serez aussi de sa résurrection. Il n'existe aucune conformité dans la résurrection, car c'est une réception réelle, absolument réelle, d'une vie réelle. Nous n'obtenons qu'une ressemblance de sa mort, un aperçu, une ombre, un petit contact, mais rien de sa profondeur terrible sur le calvaire. Baptisé dans sa mort, je vous supplierai de ne pas traiter ce message à la légère. Lorsque vous parviendrez dans la gloire, vous regretterez très amèrement d'avoir entendu ces choses et de les avoir critiquées comme étant purement un point de vue de la vérité ou un simple discours. Si vous critiquez la vérité de Dieu, vous aurez à y faire face. je plaiderai avec vous qu'au prix de cette vie terrestre, vous laissiez le Saint-Esprit rendre réel pour vous ce que cela signifie d'être vraiment planté dans l'amour de Christ. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez être conforme, oui, ressembler à l'image de Christ. Il n'existe, voyez-vous, aucune autre manière. Baptiser, être mis hors de vue dans sa mort, qui le fait? Sûrement pas l'âme elle-même, mais c'est le Saint-Esprit qui fait tout le travail. Le Saint-Esprit a deux choses à faire chez le croyant, tout comme il a fait deux choses avec Jésus-Christ. Primo, au Jourdain, il l'a baptisé d'un pouvoir puissant pour des œuvres puissantes. Et secondo, le Jourdain était la préparation pour le calvaire. Lorsque Christ était sur la croix, il n'y eut aucune œuvre puissante à voir. Pourtant, le calvaire fit davantage pour le monde que toutes les œuvres puissantes en Galilée. Nous pensons beaucoup trop aux œuvres puissantes et trop peu à la communion de la mort avec le Maître. Voyez-vous, il se peut que les œuvres puissantes signifient les plus grands travaux pour certains d'entre vous, mais la communion à la mort signifie le fruit. Vous pouvez travailler dur toute votre vie et ne faire que ça, même avec des œuvres puissantes, eh oui, mais si vous voulez mourir avec Christ, la multiplication des fruits sera si grande que votre descendance sera aussi nombreuse que le sable de la mer. Il n'existe aucune limite aux fruits qui germent de la mort. Il y a une limite au travail, puisque les œuvres de Christ furent limitées au lieu de sa région. Il n'est pas allé en Chine, ou dans l'Himalaya, ou dans la Sibérie. C'était que dans sa région, lorsqu'il était sur la terre. Voyez-vous, si nous avons été plantés ensemble dans la conformité de sa mort selon la version amplifiée, eh bien, la signification ici est comme une greffe dans un arbre. Et lorsque la greffe est mise dans l'arbre, il y a une coupure. Et ensuite, après avoir été insérés, ils sont attachés ensemble avec une corde. Et pourquoi cela? Eh bien, afin que la vie se trouvant dans l'arbre puisse aller dans la greffe et que l'arbre et la greffe aient une seule vie. Que Dieu soit béni pour tout cela. Lorsque Dieu prend le couteau pour vous couper et pour faire entrer dans l'amour de Christ, afin que sa sève, il nous fait entrer, en effet, dans la mort de Christ. Et ceci, afin que sa sève de vie, ah oui, sa sève de vie, c'est comme l'arbre, comme le chêne, puisse couler en nous, en vous. Oui, le fruit de vie, de joie, de paix, de patience et de bonté. Le fruit provient de lui comme étant votre vie. Et que faites-vous? Vous demeurez dans sa mort. Combien merveilleuse est la vérité qui suit le verset de cette greffe. Sachant cela, c'est-à-dire après avoir connu le fait d'être plantés ensemble, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est la déclaration de Dieu de la signification du calvaire. Par l'apôtre, il déclare que lorsque Jésus-Christ y était pendu, portant dans son propre corps les péchés du monde, notre vieil homme, le premier Adam de la création, fut crucifié avec lui. C'est le récit de Dieu du calvaire. Certains nous disent, non, c'est le récit et l'estimation de Paul. Mais rappelez-vous que Paul reçut son évangile de Christ carrément lui-même, de lui-même, et non des hommes. C'est écrit dans Galates chapitre 1 verset 12. Ce fut donc bel et bien Christ qui expliqua sa croix à l'apôtre Paul, en lui montrant que lorsqu'il était pendu là, la vieille création était pendue là, et elle mourait carrément avec lui. Oui, c'est là le secret de la victoire sur le péché. Ce n'est pas vous qui coupez le péché, c'est vous qui appréhendez votre place dans la mort de Christ en vous estimant mort au péché, tandis que le Saint-Esprit applique la perte mortelle et réalise concrètement l'œuvre de la délivrance. Le Saint-Esprit ne manque jamais de porter témoignage au calvaire. À l'instant où vous souhaitez, avec toute la résolution de votre cœur, être délivré de la puissance du péché, il n'existe aucun péché de la teinture la plus profonde qui ne vous déserte pas à cet endroit. Et ceci pour vous libérer totalement. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit maintenant. Ainsi, vous-même, chers amis, votre part, c'est de le reconnaître. Même si vous ne le comprenez pas totalement, reconnaître non seulement que vous êtes mort avec lui, mais que vous êtes désormais, en cet instant précis, mort au péché, et ceci aussi longtemps que vous le choisirez et que vous le voudrez. Ensuite, ne laissez pas le péché régner, jamais. C'est écrit au verset 12 de Galates, chapitre 1. C'est donc l'unique voie de victoire sur Satan, car c'est par le péché connu et inconnu qu'il nous tient. Et ce n'est que lorsque nous prenons position sur la vérité déclarée, et ceci dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, quand le diable attaque avec sa tentation au péché, ou quand vous voulez être délivré du péché, que vous pouvez dire triomphalement, et ceci sur la base de ma mort avec Christ. Je suis mort avec Christ. Oui, je suis désormais mort à ce sale péché, et il ne régnera pas. Alors, le Saint-Esprit applique la puissance de la mort de Christ. Il brise la relation avec le péché et vous en perdez même le désir. Que Dieu soit béni. La conquête est par la mort, car celui qui est mort, il est justifié du péché. Le gouffre de la mort vient entre vous et le péché. Oui, même entre vous et le tentateur, tandis que vous demeurez dans la position de mort au péché. De plus, si vous voulez la victoire sur l'ennemi, retenant une autre âme en esclavage, et avant de vous en occuper, vous devez vous assurer que vous êtes fondé sur Romains chapitre 6, n'oubliez jamais cela, parce que le seul endroit où l'ennemi soit impuissant, c'est sur la base du calvaire. Cachez-vous simplement dans la mort du Seigneur Jésus-Christ et dans le nom, dans le saint nom de Jésus-Christ, aujourd'hui ressuscité. Et ne laissez pas le péché régner, jamais. Prenez donc votre place. Reconnaissez que vous êtes mort au péché. Rejetez-le. Dieu, dans le cours de l'action, vous dira ce qu'il y a d'autre à faire. Là, au calvaire, tandis que vous apprenez à demeurer dans sa mort, votre vision sera plus claire, le voile disparaîtra, et vous commencerez à voir que sur la croix, notre Sauveur conquérant s'est débarrassé de lui-même des dominations et des puissances, et que pour vous, il les a livrées publiquement en spectacle. Et tandis que dans l'esprit, vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, vous chanterez le cantique de Moïse et de l'agneau et vous découvririez que vous devenez carrément victorieux sur la bête féroce. Vous lirez le livre de l'Apocalypse comme jamais vous ne l'avez fait auparavant et vous comprendrez que c'est un livre de guerre et un livre de victoire également. De guerre et de victoire. Et vous verrez comment le Christ ressuscité dans la gloire a envoyé du ciel l'appel retentissant à son Église. Il a dit à celui qui vaincra, « Je donnerai à manger de l'arbre de la vie, même s'il demeure là où est le trône de Satan, à celui qui vaincra, « Je donnerai autorité sur les nations, parce que tu n'as pas renié mon saint nom. À celui qui vaincra, eh bien, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis. Et celui qui est assis sur le trône nous dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles, et celui qui vaincra héritera de toutes ces choses. » C'est pas merveilleux cela? Oui, il les héritera. Le salut est un don, mais il existe un héritage des victoires. Oui, il héritera, et maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, qui cela ? L'accusateur de nos frères, de nos sœurs, de toi et de moi, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11. En effet, jusqu'à la mort, car la mort est le secret de la victoire par le sang et la parole de votre témoignage. Que Dieu nous accorde, chers amis, cela à tous. Nous avançons droit devant nous et en brûlant les ponts derrière nous, car nous ne pouvons pas regarder en arrière, refuser de garder en arrière, mais tourner la page. Ce doit être en avant vers le prix. Si le Seigneur fait de vous un pionnier dans votre Église et que vous gardez devant les membres la gloire du Christ ressuscité, ainsi que la victoire de son ennemi et de sa mort, eh bien, vous frayerez un passage pour eux comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait pour vous. Suivez ses pas et ils suivront également les vôtres. Le Seigneur vous compte parmi ceux qui mènent des âmes vers lui pour sa gloire. C'est merveilleux cela. Et nous arrivons maintenant à notre deuxième message, qui est la véritable grandeur. Chers amis, il est dit dans Saint Luc chapitre 1 verset 15, « Il sera grand devant le Seigneur. » Ainsi parla l'ange qui prédit la naissance de Jean-Baptiste devant le Seigneur. Pensez un peu à quel assortiment ils sont, ceux qui sont réunis dans le Valhalla mondial et honorés comme étant les plus grands hommes du monde. La masse des gens est tellement sur un plan, celui-ci est si bas, qu'un pouce au-dessus de la moyenne paraît gigantesque. Mais voyez-vous, le brin d'herbe le plus grand est tondu par la faux. Il se fane aussi rapidement que le reste de ses compagnons, même bien verts, et il se dirige tout aussi certainement vers le four. Il y a la fausse estimation du monde de la grandeur et il y a celle de Dieu. Si nous voulons connaître quels sont les éléments de la véritable grandeur, nous ferions bien de nous tourner vers la vie de cet homme qui fut devancé par la prophétie qu'il serait grand devant le Seigneur. C'est là de l'or qui résistera à l'épreuve. Nous devons nous rappeler également que Jésus-Christ, en jetant un regard rétrospectif sur la carrière que l'ange anticipait, appuya la prophétie et déclara qu'elle était devenue un fait et que parmi ceux qui sont nés de femmes, il y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Avec l'éclairage de son, on peut dire de son éloge, nous pouvons alors nous tourner carrément vers cette vie et nous pouvons réunir quelques leçons pour notre propre directive. Premièrement, nous notons chez Jean le Baptiste un courage et une fermeté absolument inébranlables et inflexibles. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non, un pilier de fer qui demeurait ferme quel que soit le vent qui soufflait contre lui. Ceci, tel que je le saisis, est dans son sens véritable le fondement de toute grandeur morale qu'un homme, une femme, puisse avoir une emprise qui ne peut pas être desserrée. Elle est donc semblable à celle de la sèche, avec toutes ses fameuses tentacules autour de sa proie, sur les vérités qui dominent son être et qui font de lui un héros. Ça, c'est pas peu de choses. « Si vous voulez que je pleure, » disait le vieil artiste poète, « il doit y avoir des larmes dans vos yeux. Si vous voulez que je croie, vous devez vous-même être embarrassé. Oui, vous devez être embarrassé de votre péché ancien et être embrasé, écoutez bien, d'une conviction. Une conviction qui a pénétré la moelle même de vos os. Et donc, tel que je le comprends, la première requête, que ce soit pour le pouvoir sur les autres ou pour la grandeur dans le propre développement du caractère d'un homme, d'une femme, c'est qu'il y ait cette fermeté inébranlable de compréhension de vérité clairement appréhendée et une audace déterminée de dévotion envers elle. Je n'ai pas besoin de vous rappeler combien magnifiquement, tout au long de la vie de notre exemple typique, cette qualité fut gravée sur chaque parole et chaque acte. Il ne fait aucun doute qu'elle atteignit son apogée dans sa confrontation avec Hérode et Hérodias. Mais les caractéristiques morales n'atteignent pas leur apogée, à moins qu'il n'y ait beaucoup de fondements souterrains pour supporter le haut pinacle. Et aucun homme, lorsque de grandes occasions se présentent à lui, ne développe un courage et une assurance inébranlable qui soit étranger à sa vie habituelle. Il doit y avoir l'édifice souterrain et il a dû y avoir de nombreuses luttes pour vaincre les craintes et beaucoup de tremblements maîtrisés et de nombreuses réprimandes des hésitations et des doutes chez le prophète avant qu'il soit un homme capable de se tenir devant Hérode et de dire, écoutez bien, et de dire, « Il ne t'est pas permis d'avoir cette femme. » Il ne fait aucun doute que beaucoup de choses doivent être établies pour le compte du caractère. Mais quoi qu'il puisse être, la voix de ce courage, courage inébranlable, du tintement ferme et clair, d'une certitude indubitable, est ouverte à chaque chrétien et chrétienne, et c'est leur propre faute, leur propre péché et leur propre faiblesse s'ils ne possèdent pas ces qualités-là. Le caractère, quel est le bien fondé de notre religion si elle ne sert pas à modifier et à contrôler notre caractère? n'est-ce pas ? Je répète, le caractère, quel est le fondement de notre religion, par exemple ? Si tout cela ne sert pas à modifier et à contrôler notre caractère, car un homme a-t-il vraiment le droit de renâcler d'un côté et d'abandonner l'essai de franchir la haie parce qu'il sent que dans sa disposition naturelle, il y a peu de pouvoir pour sauter? Certainement pas. Voyez-vous, Jésus-Christ est venu ici-bas dans le but même de fortifier notre faiblesse. Alléluia. Et si nous sommes fermement enracinés en lui, alors, dans la mesure où son amour a envahi toute notre nature, notre courage sera inébranlable. Et à partir de notre faiblesse, nous serons rendus forts. Voyez-vous, le saule possède une beauté semblable à celle du chêne. La fermeté n'est pas de l'obstination. Le courage n'est pas de l'insolence. Il est donc possible d'avoir une main de fer dans un gant de velours, non pas une politesse respectueuse de l'étiquette, mais une douceur et une prévenance véritable. Donc ceux qui ressemblent à celui qui était doux et humble de cœur, souvenez-vous, sont vraiment sûrs de posséder la résolution déterminée qui rendait son visage semblable à un silex et qui lui a permis d'aller à la croix. Ça, c'est pas drôle, c'est pas peu de chose, et ceci sans hésitation et sans esprit récalcitrant. N'oublions donc pas non plus que la fermeté inébranlable de Jean le Baptiste vacilla, qu'au-dessus du ciel clair de ses convictions planait un nuage que lui, de qui aucune violence ne pouvait arracher la foi et la senti, oui, la foi la senti carrément glisser de ses mains, lorsque ses muscles se relâchèrent dans le donjon et qu'il envoya de la prison, souvenez-vous, qui était l'excuse du message, ses disciples posaient la question, après tout, es-tu vraiment celui qui doit venir? Et n'oublions pas non plus que ce fut cet instant même d'incertitude que Jésus-Christ saisit pour déverser ce flot de louanges illimitées pour la fermeté de ses convictions sur la tête chancelante du précurseur. Aussi, si nous sentons que bien que l'aiguille de notre boussole se dirige bien vers le pôle, pourtant, lorsque le cadre de la boussole est secoué, les vibrations de l'aiguille s'écartent parfois de leur véritable direction. Ne nous laissons jamais abattre, mais croyons qu'une concession miséricordieuse est accordée à la faiblesse humaine. Et cet homme était grand, croyez-moi. Premièrement, parce qu'il avait un courage et une fermeté tellement intrépides qu'au-dessus de son cadavre, sans tête et ceci dans la tour à Macarey, on aurait pu prononcer ce que l'écrivain Murray a dit au-dessus du cercueil de John Knox. Ici repose quelqu'un qui n'a jamais craint la face d'un homme. Deuxièmement, un autre élément de la véritable grandeur qui ressort noblement de la vie dont je traite et son élévation claire au-dessus des biens de ce monde, ce fut le second point que notre Seigneur signala. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme vêtu d'habits précieux? Mais vous auriez dû aller dans un palais si vous aviez voulu voir cela. Non, près des berges couvertes de roseaux du Jourdain, il y avait quelqu'un d'autre. Comme nous le savons tous, dans sa vie, dans sa manière de s'habiller, dans sa nourriture, dans les buts qu'il s'était fixés, il s'est élevé bien au-dessus de toute estime des douceurs dégradantes et périssables et qui prennent fin avec le temps. Il vivait manifestement dans l'invisible. Son ascétisme appartenait à son âge et il n'était pas l'exemple le plus élevé de la vertu qu'il exprimait. Tout comme j'ai parlé de son courage, je parle aussi de son abnégation, celle de Christ est d'une autre sorte. Comme la force de la douceur est plus grande que le pouvoir d'une force telle que celle de Jean le Baptiste, de même l'ascétisme de Jean est plus bas que l'autonomie de l'homme qui est venu mangeant et buvant, rappelez-vous. Mais, tandis que cela est vrai, je recherche, chers frères et sœurs, à préconiser cette vieille leçon rebattue, toujours nécessaire, plus que jamais nécessaire parmi les habitudes stupéfiantes, on peut dire, et stupidement luxurieuses, carrément, de cette drôle de génération, nécessaire dans peu d'endroits, plus que dans un grand centre commercial, que le seul élément indispensable de la véritable grandeur et de la véritable élévation du tempérament est que, non pas le prophète ou le prédicateur seulement, mais chacun de nous, toi, moi, devrait vivre bien au-dessus de ces tentations de joie frustre et périssable, et devrait du dédain se réjouir et vivre des jours laborieux. J'en prends pour mon grain. Et oui, il faut être sincère devant Dieu, toujours. Aucun homme, aucune femme n'a le droit d'être appelé grand si ses buts sont petits. Et la question est, non comme l'idolâtrie de l'esprit, ou pire encore, l'idolâtrie moderne de la réussite, l'exprime très souvent, a-t-il de grandes capacités? A-t-il un coefficient intellectuel au-dessus des autres? Ou a-t-il gagné de grands prix? Mais a-t-il grandement utilisé sa vie et sa personne? Si vos objectifs sont petits, vous ne serez jamais grand. Et si vos buts les plus grands ne sont que d'obtenir une bonne tranche du dessert de ce monde, alors peu importe quel pouvoir Dieu vous a donné pour les utiliser, vous êtes avant tout un petit homme. Je me rappelle une illustration vigoureuse et altière de Saint Bernard. De Saint Bernard qui compare un homme qui vit pour ses délices périssables, que Jean repoussait carrément, à une araignée, on ne sait pas si c'est la veuve noire, tissant une toile avec sa propre substance et n'y attrapant rien si ce n'est une misérable proie de pauvres petites mouches. Évidemment, c'était pas la veuve noire. Une telle personne n'a sûrement aucun droit d'être appelée un grand homme. Nos objectifs plutôt que notre capacité déterminent notre tempérament. Et ceux qui aspirent grandement aux choses les plus grandes à portée des hommes, et qui ont foi, espérance et charité, et qui pour la cause de réaliser ces aspirations mettent leurs talons sur la tête du serpent et suppriment carrément l'animal dans leur nature, et ceux-là, croyez-moi, sont les hommes, sont les femmes qui sont grands devant l'Éternel. Troisièmement, un autre élément de véritable grandeur et qui nous est enseigné par notre exemple est un enthousiasme ardent pour la justice. Peut-être pensez-vous que cela n'a pas beaucoup de rapport avec la grandeur. Je crois que cela a tout à voir et que la différence entre les hommes se trouve largement là qu'ils flambent dans la chaleur d'incandescence de l'enthousiasme pour les choses qui sont justes ou que les seules choses qui puissent les allumer dans quelque chose comme la véhémence et l'émotion sont les choses pauvres et minables de l'avantage personnel. Je n'ai pas besoin de vous rappeler comment, tout au long de la carrière de Jean le Baptiste, y brûlait cette lumière constante, non vacillante et éternelle. Comment il apporta au service de l'enseignement le plus clair de la moralité, une ferveur de passion et de zèle presque sans précédent et, on peut dire, magnifique. Je n'ai pas besoin de vous rappeler comme Jésus-Christ lui-même posa sa main sur cette caractéristique lorsqu'il a dit de lui qu'il était une lumière allumée et brillante. Mais je voudrais déverser sur tous nos cœurs la leçon claire et pratique que si nous cultivons cette région de tiédeur qui se rapproche le plus de la chaleur tropicale, eh bien ces questions morales et négligeuses sont capables de soulever chez de nombreuses personnes parmi nous qui, toute chance est petite, je répète, parce que je pourrais me tromper, ces questions morales et religieuses, elles sont capables de soulever chez de nombreuses personnes parmi nous que toute chose est au fond petite d'être grand devant le Seigneur. Nous sommes souvent plus petits que nous pensons devant le Seigneur. Et nous entendons dire beaucoup de choses à propos des bénédictions de la modération, des dangers du fanatisme, oulala, et des choses semblables. Je me risque à penser que la dernière chose que la conscience morale du monde veuille à l'heure actuelle, hein, eh bien, c'est l'Internet de tous les gadgets inimaginables qui vont avec, et ce qui nécessite une beaucoup plus grande importance que cela, c'est que tous les chrétiens soient confrontés à cette vérité évidente que leur religion a comme étant une partie indispensable d'elle, un esprit embrasé, et que s'ils n'ont pas été baptisés de feu, il y a peu de raisons de croire qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est clair et net. Je désire ardemment que vous et moi soyons embrasés pour la bonté, que nous soyons enthousiastes envers une moralité claire et que nous puissions montrer que nous le sommes par notre vie quotidienne, par notre réprimande de notre opposé. Et cela est nécessaire, même si cela doit mener dans la chambre d'Hérode. Ah oui, et faire d'Hérodias notre ennemi pour la vie, notre ennemi mortel. Et quatrièmement, enfin, observez le dernier élément, l'élément de grandeur dans l'humilité, dans l'abnégation de soi absolue de cet homme merveilleux devant Jésus-Christ. Il n'y a rien que je connaisse dans la biographie de plus beau, de plus frappant que le contraste entre les deux moitiés de caractère et de comportement du Baptiste, comme d'un côté, il affronte tous les hommes d'une façon inébranlable et ne reconnaît aucun supérieur. Et comment, ni les menaces, ni les flatteries du reste, ni rien d'autre ne le tentera de lui faire franchir d'un seul pouce les limites dont il est conscient, ni ne fera diminuer d'un seul centimètre les déclarations qu'il recommande. Et d'un autre côté, comme un cèdre haut frappé par la foudre, il tombe prostré devant Jésus-Christ et il dit « Il faut que Christ grandisse et que moi je diminue. » Un homme ne peut rien recevoir à l'exception de ce qui lui est donné par Dieu. D'un côté, il est tout audace, de l'autre, toute soumission et dépendance. Vous vous rappelez comment, face aux nombreuses tentations, cette attitude fut maintenue. Le message même qu'il devait porter, souvenez-vous, était rempli de tentations pour un homme égoïste à se défendre. Vous vous rappelez le nom, presque brusque, avec lequel, de manière réitérative, il a fait face aux suggestions d'une délégation venant de Jérusalem qui cherchait à lui faire dire qu'il était plus que qu'il savait être. Et comment il tint bon, il a tenu bon, avec cette parole infiniment humble et belle. « Je suis simplement une voix dans le désert, c'est tout. » Vous vous rappelez comment tout un pays était dans une sorte de conspiration pour le tenter de se défendre et qui était prêt à éclater en flammes s'il avait lancé une étincelle, car tous les hommes se demandaient dans leur cœur s'il était ou non le Christ, et tous les éléments illégaux et agités qui auraient été bien trop contents s'il avait déclaré qu'il était le Messie. Et rappelez-vous comment ses propos, ses propres disciples, on doit se souvenir, ils sont venus vers lui, ils ont essayé de jouer sur sa jalousie, ça c'est terrible, et de le pousser à se défendre. « Maître, sais-tu que celui que tu as baptisé, sais-tu ?» Et ainsi lui donner les premières lettres de créance qui envoyèrent des hommes dans sa course. « Il t'a dépouillé !»« Il t'a dépouillé !» Et tous les hommes vont vers lui. « C'est affreux !» Tu es plus rien à côté de lui. Et vous vous rappelez la jolie réponse qui ouvrit de telles profondeurs de tendresse inattendue dans la nature brusque. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une très grande joie. Et quelle conception de Jésus-Christ avait Jean le Baptiste pour qu'il ait ainsi courbé la tête devant lui et adouci son cœur en une soumission presque méprisable. Il savait que Jésus-Christ était le juge à venir, avec son van à la main qui baptiserait de feu. Et il savait qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il tomba donc à genoux devant lui. Chers amis, je crois que je dois terminer ici parce que nous arrivons ou nous arriverons jamais à la fin de ce CD. Chers amis, si nous parvenons à des endroits sombres, alors nous savons immédiatement que la fin d'une vieille période de notre vie chrétienne est le point de départ d'une nouvelle période. Soyons donc prêts pour de nouvelles expériences inattendues, de nouvelles réalisations de ce que Dieu est, au lieu de répéter à Dieu « Je fais de mon mieux ». Et il faut pas trop m'en demander. Il y a une nouvelle grâce qui nous est apportée, selon la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 13. Grâce qui doit être saisie par une espérance ferme et inébranlable. Chers amis, nous dirons simplement, ensemble dans la prière, « Seigneur, rends-nous, s'il te plaît, semblables à Jean le Baptiste, courageux, courageuse, et à t'aimer, s'il le faut, jusqu'à la mort. » Amen. Soyez bénis, chers amis, et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Ça continue. Oh oui. Et ce sera intéressant pour chacun d'entre vous. À bientôt. Au revoir, chers amis.